Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Extrait de l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 2, verset 16.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les Juifs et les chrétiens connaissent Hérode le Grand. Or, disons-le d'entrée, celui-ci, dans la tradition de ces deux religions, n'a pas très bonne presse. Vous avez entendu l'extrait de l'Évangile de saint Matthieu, où Hérode est présenté comme celui qui a ordonné le massacre de ce que l'on appela les saints innocents. Alors qu'en est-il exactement? Qui est ce personnage que l'on retrouve dans les évangiles, dans les écrits de Flavius Joseph, dans les livres d'Eusèbe de Césarée et dans d'autres chroniques? Je pense en particulier à celle de son secrétaire Nicolas de Damas. Est-ce que l'on peut réduire le personnage à cet être violent qui aurait ordonné le massacre de ses enfants? Les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Il est né en 73 avant Jésus-Christ, il est le fils du prince Antipater, le jeune, et de Cypros, sa mère. Il appartient finalement à un temps où le royaume qui a retrouvé sa liberté, son indépendance à la suite de la guerre des Maccabées, eh bien, ce royaume de Judée connaît une guerre civile. Et c'est finalement l'intervention de Rome qui, alors que Hérode a 10 ans, va rétablir le calme dans la région. C'est le cas effectivement de l'intervention de Pompée qui va créer en 63 la province de Syrie et qui va installer comme roi client de Rome Hyrcan II qui est à la fois grand prêtre et ethnarque, c'est-à-dire souverain. Nous avons là affaire à l'habitude des rois clients. Pendant assez longtemps, Rome, en particulier en Orient, ne s'est pas directement impliquée dans l'administration des territoires conquis ou contrôlés par elle, mais a délégué un pouvoir administratif à des rois clients, qui étaient en fait des alliés de Rome. Et donc Hyrcan est finalement celui qui va revenir sur le trône alors qu'il est établi par Rome. Et à vrai dire, Hérode est du même acabit, c'est-à-dire que Hérode est placé sur le trône de Judée par Rome en 41 avant Jésus-Christ. Il va recevoir le titre de tétrarque de Judée, c'est-à-dire de roi. Et il va rester maître du pouvoir jusqu'en 4 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous avons affaire à quelqu'un qui va régner presque 40 ans, ce qui veut dire qu'il a été un fidèle collaborateur de Rome. Et ça, je crois que c'est important à retenir. Vous avez avec Hérode le Grand le type même du roi client qui accepte de maintenir l'ordre, de faire rentrer les impôts et d'administrer une province avec l'appui des Romains, mais finalement sans que les Romains soient directement à la manœuvre. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il a conservé le pouvoir alors qu'il y a eu d'importants changements à Rome. Parce que en 41 avant Jésus-Christ, il est dans une région où vont dominer les personnalités de Cléopâtre VII, reine d'Égypte, et de Marc-Antoine, un des triumvirs qui, avec Octave et Lépide, s'était réparti le pouvoir dans le monde romain. Or, la défaite de Marc-Antoine et de Cléopâtre n'a pas suscité un changement de pouvoir. Parce qu'effectivement, il a soutenu Marc-Antoine et Cléopâtre, mais il a réussi à se faire proclamer à nouveau tétrarque, ou plutôt confirmer tétrarque, par Octave. Il est allé le rencontrer à Rhodes, et il lui a fait acte d'allégeance avec une formule qui me semble extrêmement intéressante quand on doit s'adresser à un supérieur qui vient d'arriver. Ne regarde pas qui j'ai servi, mais comment je l'ai servi. C'est-à-dire qu'il fait passer le message à Rome que, véritablement, il a servi Cléopâtre et Marc-Antoine, mais qu'il peut faire preuve de zèle pour le nouveau maître du pouvoir qu'est Octave. Et finalement, devenu empereur Auguste en 27 avant Jésus-Christ, eh bien, Octave va le maintenir sur le trône de Judée. Donc c'est un grand politique, c'est un grand politique. Autre élément qui est, me semble important à retenir chez lui, c'est un très grand constructeur. Il a laissé des monuments impressionnants, ou en tout cas le souvenir de monuments impressionnants. D'abord, le temple. Effectivement, le temple qu'a connu le Christ. Le temple dont il a chassé les marchands, où il est venu porter la parole, eh bien, c'est le temple qui avait été profondément embelli par Hérode le Grand. De même, en 14 avant Jésus-Christ, on inaugure Césarée Maritime, qui va devenir par la suite la capitale de la Judée romaine, et qui est une formidable ville grecque, avec tous les monuments dignes de la civilisation gréco-romaine et en bordure de la Méditerranée. Ce qui fait d'ailleurs que les préfets représentant Rome ne résidaient pas à Jérusalem, mais à Césarée Maritime. De même, on a retrouvé, il y a presque 20 ans, l'Hérodion, monument extraordinaire, sans doute palais royal, situé à 6-7 km de Bethléem, et où le professeur d'archéologie, Ehud Netzer, pense avoir, en 2007, retrouvé la tombe d'Hérode le Grand. Et enfin, il a également construit une forteresse palais qui est devenue célèbre en 70-73 lors du siège, c'est la forteresse de Massada. Alors, il est exact que Hérode le Grand a mauvaise réputation. Oui, il a su faire preuve par moments de dureté. Il a été par moments violent, il avait des excès de colère. C'est ainsi, par exemple, qu'il s'est marié à plusieurs reprises, mais qu'être son épouse n'était pas forcément une place de tout repos, parce qu'en 29, il a fait exécuter son épouse Mariam. De même, l'année suivante, il a fait exécuter sa maîtresse Alexandra pour des complots présumés. Il fut également dur avec certains de ses fils, Alexandre et Aristobule, pour complot contre lui, sont exécutés en 7 avant Jésus-Christ. Donc oui, il peut être violent. C'est pour cela peut-être aussi qu'on lui a donné la faute du massacre des saints innocents. Alors, cette question des saints innocents est effectivement problématique. Y a-t-il eu une exécution des enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem à l'époque d'Hérode ? Les évangiles, en plutôt l'évangile de Matthieu en parle, pas les autres. Ce qui est étonnant et qui interroge les historiens, c'est que Flavius Joseph, grand chroniqueur et historien important du monde juif à l'époque de Jésus et au premier siècle de notre ère, n'évoque pas cette question du massacre. Or, il fait partie de ces intellectuels, de ces savants qui n'hésitaient pas à noircir, quand ils le pouvaient, Hérode le Grand. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu un massacre, ou est-ce que ça a été simplement les exécutions de quelques enfants qui, finalement, dans la dureté du monde, ont pu passer inaperçus ? Laissons la question ouverte. Ce qui est vrai aussi, c'est que cet homme a été sans doute un prince hellénisé. Il était à la fois juif, mais de tradition, de culture grecque. Et c'est vrai que les juifs pieux, les autorités du temple, pouvait lui reprocher régulièrement de ne pas être un bon juif, de ne pas être un juif pieux. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, qu'il va offrir à Dieu et à la communauté juive à Jérusalem le splendide temple, dont il ne reste aujourd'hui quasiment rien, puisque le mur des lamentations que nous pouvons observer encore aujourd'hui à Jérusalem n'est que le soubassement du temple, car celui-ci a été détruit à la fin de l'été 70, après la révolte juive contre Rome. Hérode le Grand meurt en 4 avant Jésus-Christ, donc il est mort, si j'ose dire, au moment de la naissance plus ou moins de Jésus de Nazareth, car il y a une erreur de compute chrétien par le moine Denis le Petit. Et à sa mort, c'est son fils Archélaos qui lui succède. Seulement Archélaos va se montrer beaucoup moins habile et beaucoup moins efficace que son père. Et ceci explique que, en 6 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste ait préféré transformer la Judée non plus en royaume client, mais en province de Rome, c'est-à-dire avec un administrateur qui sera un préfet. Et parmi ces préfets, vous en connaissez un, puisque on parle de lui dans chaque célébration de la messe, Ponce Pilate.